Je pense qu'on peut procéder assez vite, donc peut-être si des gens avaient gardé des questions ou commentaires en réserve, on peut les entendre maintenant. Et puis ensuite nous conclurons ce colloque qui, je pense, selon un avis qui je pense sera largement partagé, c'est très bien déroulé avec beaucoup de des communications de très haut niveau et surtout beaucoup de nouveautés. Donc, y a-t-il là maintenant à nouveau des remarques ou des questions en français ou en anglais ? Quelle vision d'ensemble peut-on retenir de tout ce qu'on a vu ? Voilà une excellente question. La vision d'ensemble qu'on peut retenir, c'est que tout de même ça circulait beaucoup. C'était un peu le présupposé du colloque. On peut faire une chronologie des voyageurs attestés. On peut faire une chronologie des dates des traductions des œuvres. On peut faire une chronologie des œuvres d'art datées. On peut faire une chronologie des événements militaires, bien que cet aspect n'ait pas du tout été abordé. On avait au départ proposé quelques... On avait dit dès le départ que on ne va pas faire un énième congrès d'études bouddhiques. Beaucoup de congrès d'études bouddhiques, c'est un domaine qui évidemment a été très abordé ici, mais qui n'était pas le centre d'intérêt. C'était la circulation abordée sous divers aspects. Alors, je dirais l'aspect qui a été majoritairement abordé, et c'est normal étant donné l'état de la documentation, c'est l'aspect artistique. Les aspects doctrinaux ont également été abordés souvent par le biais de l'histoire de l'art. Il y a tout de même eu un élément qui a été absent, mais bon, on ne pouvait pas non plus tout traiter. C'est que la diffusion religieuse depuis l'Inde sur l'Asie centrale, y compris le Taklamakan, ça n'est pas que le bouddhisme, c'est aussi l'hindouisme. Et de plus en plus, à partir du VIe siècle, ce qu'on voit très bien en Sogdiane, où les éléments indiens dans l'art sogdien, bon, il y a certes un substrat bouddhique, mais tout de même, très majoritairement, ce qu'on voit, ce sont des manifestations principalement du shivaïsme. Vous dérivez du shivaïsme. Bon, ça n'a pas été abordé. On ne pouvait pas non plus tout dire. L'aspect linguistique était surtout traité par la communication de Georges Pinault, dont on peut vraiment regretter qu'il n'ait pas pu venir la présenter lui-même, mais elle a été distribuée. Elle a un contenu très riche. Pardon ? Oui, elle a été distribuée. C'était, disons, la communication qui abordait le plus la question du multilinguisme et également des mécanismes d'emprunt linguistique. Voilà. Mais tout de même, bon, les questions proprement linguistiques et philologiques ont été très profondément traitées aujourd'hui. La question du passage, donc, de l'Inde à la Chine. Bon, évidemment, on aurait pu aussi parler du Tibet, on n'en a pas très peu parlé. On aurait pu parler de Koh Tan. On en a également peu parlé, en France, personne en France actuellement ne travaille sur les études cotanaises. Les spécialistes des études cotanaises sont plutôt en Allemagne. Et en Angleterre, et aux États-Unis, je dirais. Bon. Voilà. Alors, un aspect qui n'a pas du tout été abordé, bien qu'il ait figuré comme une sous-entrée dans l'appel à contribution que Vincent et moi avions diffusé, c'est les voyages des marchands, l'aspect commercial, la circulation de la monnaie, les routes marchandes, les biens échangés, les techniques commerciales, il n'en a pas du tout été question. Bon, c'est un peu le hasard des réponses aux appels à contribution. Il y a une documentation Pour ça, il faut reprendre la documentation primaire. Par exemple, un dossier de texte comme les anciennes lettres sogdiennes trouvées à Dunhuang et maintenant datées de 313-314 est absolument central, y compris, pour les... Alors, l'Inde est relativement présente parce qu'il y a beaucoup de choses sur des échanges avec le royaume de Kroraina qui était en grande partie indianisé et qui comportait une population d'origine indienne avec laquelle les Sogdiens s'intermariaient et qui a certainement en partie joué un rôle d'éducateur commercial auprès des Sogdiens. Sur les échanges commerciaux entre l'Asie centrale et l'Inde, on a un gros dossier, mais déjà un peu ancien, et qui a été, je dirais, étudié dans son exhaustivité, c'est le dossier des inscriptions du Haut-Indus. Mais là, il y a déjà eu des colloques à ce sujet, il y a une trentaine d'années. Ça a été tout de même une grande révélation documentaire, mais aujourd'hui, toutes les inscriptions, tous les graffitis sont publiés, très bien publiés, sous la direction de Karl Hietmar, c'est publié principalement à Heidelberg, mais il y a aussi dans le Corpus Inscriptionum Iranicarum les très beaux volumes de Nicolas Sims Williams, et puis les articles auxquels tout ça a donné lieu, principalement, je dirais, par Sims Williams, par Étienne de la Vessière dans son livre, et puis également par Gérard Foussman. Voilà, on ne pouvait pas tout faire, on ne pouvait pas parler de tout. Ça nous prouve qu'il faut refaire des colloques sur ce sujet des échanges. Voilà, alors, je ne sais pas si mes assesseurs souhaitent rebondir sur certains points. Il y a deux choses que je voudrais ajouter là-dessus. Ce qui apparaît très bien dans ces deux jours, c'est que la documentation n'est vraiment pas close et que chaque année, que ce soit dans le domaine des dossiers des textes ou de l'archéologie ou de l'histoire de l'art, on a sur la table des documents nouveaux. Ce qui entraîne un inconvénient, c'est que je rebondis sur la première question qui a été posée. La production d'ouvrages de synthèse, d'ouvrages généraux, est difficile, frustrante, parce qu'on préfère évidemment beaucoup faire des articles ou des actes de colloque que des ouvrages de synthèse, parce qu'on sait très bien qu'au moment même où on va les remettre à l'imprimeur, il y aura des parties qui seront déjà caduques. Et alors, parallèlement à ça, on voit aujourd'hui fleurir une immense littérature avec toujours dans le titre écrit « Route de la soie ». Alors, s'il y a un élément de satisfaction personnelle que j'éprouve à ce colloque, c'est que pratiquement le mot n'a jamais été prononcé. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien parce que on a une véritable indigestion. Bon, le concept a été utile à son époque et puis ça a servi quand même de bannière identificatrice pour nos études. Mais alors, surtout à une époque où il est, on le sait très bien, très instrumentalisé politiquement, il est préférable de ne pas se couvrir sous ce terme. Et on n'a pas beaucoup parlé de la soie, c'est très bien aussi. On a beaucoup parlé du musc, on a beaucoup parlé du santal. Quand on prend les documents commerciaux authentiques, comme les anciennes lettres, on s'aperçoit que c'est pas la soie l'essentiel et qu'en plus, le statut de la soie comme objet économique, Étienne en a parlé beaucoup mieux que moi après d'autres, le statut de la soie comme objet économique n'est pas du tout évident puisque c'est un statut parmi d'autres. Il y a la soie un statut symbolique, la soie un statut monétaire, un statut politique. Il y a des denrées, comme encore une fois le musc, le santal, le poivre, qui sont eux beaucoup plus qui se prêtent beaucoup plus aux analyses d'histoire économique.
Juste quelques mots. Je vais peut-être parler en anglais parce qu'il y a quand même censé d'être bilingue pour mes amis. What I think is in a colloquium like this, we have only 30 minutes papers, and you can't tell everything within 30 minutes. And also the other interesting thing is that we are looking forward for the new documentation, which is the case for many of you presenting new things. So we had archaeologists here, we have also art historians and also the tech specialists. So this is a wonderful location for all of us to meet and have a discussion. And we are not going to, as Franz said very clearly, it's impossible to talk about every subject, what happened in India and Central Asia. So this should be a beginning of some more events to come here and also elsewhere. Just to give you a summary, British Library is organizing an exhibition now, and it will be in 3 months, and then the British Museum is organizing something. I mean, it's always the Rudulaswa, the Silk Road. And also in China, we ourselves, that's the reason why I came to France with the Berkeley delegation. We are going for a bigger, major event in 2024 on a big exhibition concentrated on Dungong. And it's going to be certainly a big colloquium, big conference. So things are happening.
No,
it will be in Berkeley. Berkeley Nation Art Museum in San Francisco, so with the help of Stanford and University. So many things are happening. So it's very important the way the colloquium was organized. In most of these events, we never get a chance to meet Tigran, Kazim, our colleagues working in Uzbekistan and Tajikistan, and also our Italian colleagues doing wonderful work in Gandhara and North Pakistan, and also earlier in Afghanistan. So we will never cover the whole history. The history cannot be covered. And thing is, even regarding the chronology, if the chronology is absolute, there's no reason to have these conferences. So that's what I like to say. I just finished when Anik Fernie organized this roundtable discussion. What Susan Whitfield said was that we haven't even covered 10% of what we have got to do. It's regarding,
fortunately.
So there's work to be done. So the young scholars who are here should take the baton and the relay and then continue with the studies.
Some events to come to in Paris. We it's premature today to produce synthetic work, which is out of reach. Although there are excellent, in all this literature containing Silk Road in the title, there are some excellent books, not many, but among the last publication, some excellent ones. Valerie's book, I think, taking the Silk Road from the Chinese point of view, but with a very updated information about everything which was happening to the west of China, is at the moment, I think, far above a lot of such publications. Something we have to do is to produce, to organize good exhibitions and to produce good exhibition catalogs, because this gives an excellent occasion to update our knowledge. So two events are being currently prepared in Paris. One will be an exhibition on archaeology in Tajikistan. It was initially planned for the end of this year. It might be delayed, but maybe delayed by 1 year, but hopefully not more. Another event is an exhibition on the archaeology of Uzbekistan, which will take place at the Louvre starting October 2021. It looks as very far away, but it is the time we need to prepare an exhibition with 400 exhibits, a very large space allotted, and a very substantial catalogue on which we are already working. I think there is now, just now, an exhibition is being opened at Dunhuang, on the archaeology of Qinghai, and it's already for those who. I was in Dunhuang 3 weeks ago, but unfortunately too early to to attend. and many such events. There will be a Silk Road exhibition at the Institut du Monde Arabe, as far as I know, and many such events. So together with the Louvre exhibition, there will be a conference co-organized by the College de France and by the Louvre. So Osmund expressed the wish that such events would be repeated. They will be.
They will be, yes.
Okay? Et encore une fois, merci à tous.